comme Max quand c'est le temps.
Tu parles de Max Larouche?
Max Larouche.
Ben, je pense qu'il t'a déserté depuis un bout déjà.
Ouais.
T'as besoin de quoi, là?
Il est où, mon chum Jeff Fortin? Pour les sports. C'est moi, les sports.
C'est toi, les sports. Non, moi, je suis nouvelle, toi, t'es sports.
Faites-moi confiance.
Mais si t'as besoin de moi pour la NFL...
Ça commence? Hey, en fait, c'est la semaine prochaine.
Mais officiellement, jeudi, on a quelque chose, mais dimanche, c'est le premier dimanche football.
Pourquoi tu me demandes si je vais te faire confiance? Je pense que je suis le seul gars qui t'a travaillé, qui te permet de parler tout le temps.
Non, j'en ai un autre en tête.
Tu as travaillé combien de gars?
J'ai juste travaillé avec des gars.
5, 6?
J'ai travaillé avec une femme aussi, Myriam Segal.
Okay. Oh, mais elle te laissait parler.
T'es pourquoi les hommes... on n'a pas le temps d'embarquer là-dedans, mais on peut-tu mettre une note?
Ben oui. Prolongation
de
contrat.
Note.
Prolongation de contrat de 8 ans, 14 millions de dollars par année pour Leon Draisaitl avec les Oilers d'Edmonton. Les Oilers vont être une force de frappe encore pour les prochaines années. Les Capitales de Québec sont en mode attente jusqu'à jeudi. On va savoir ce soir qui sera leur adversaire pour débuter les séries. Ce sera entre les Titans d'Ottawa et les Valley Cats de Tri-City et qui s'affrontent d'ailleurs dans quelques heures. Donc, le premier match des séries à Québec aura lieu jeudi. Québec est à la recherche d'un troisième championnat de suite. Pour ce qui est du baseball majeur, ce soir, les Blue Jays qui affrontent les Phillies. Le match est présenté à 19h07. Et pour ce qui est du football, ben, c'est le dernier lundi sans football, Pascal. Premier match, c'est jeudi, Ravens contre Chiefs.
Yes. Bon, c'est pas nécessairement le match que j'attends le plus. Là. Dimanche, les Bengals jouent en passant contre les Pats. Ça va vraiment être un bon match. C'est un excellent match. Dimanche, cherchez-moi pas. Je serai au parvis. Mais en nouvelle, par contre, je peux te dire qu'il y a eu un incendie au Château Frontenac ce matin. Ça a été maîtrisé, mais quand même, il y a des gens qui ont été évacués. C'est ça que vous avez peut-être vu dans le coin de la ville. Aussi, bon, campus universitaire, on a un frein dans les rénovations. On prend un peu plus de temps que ce qui était prévu. On peut parler du sondage de sa mamade, qui est toujours en réflexion pour la mairie de Québec, mais il pourrait quand même être encouragé par ce qui a été fait du côté de Léger, parce qu'on le place en deuxième derrière le maire Marchand, mais côté statistique, il y a genre un écart de 4 points de pourcentage. On est à 39-34. 39 pour le maire Marchand, 34% dans les intentions de vote pour sa mamade, qui n'a même pas annoncé encore sa candidature officiellement.
Peut-être qu'on entendra sa mamade dans les prochaines heures sur les ondes de boulevard 102. Qu'aura-t-il à nous dire? Absolument rien.
Ben, je pense aussi.
Il n'aura rien à nous dire. Il ne veut pas l'annoncer tout de suite.
Donc, il ne peut pas venir si tu n'as rien à dire.
Et voilà. 13h03, on s'en va rejoindre notre chroniqueur qu'on aime beaucoup, Jérôme Blanchet-Gravel de Libre Média. Salut, Jérôme.
Bonjour à vous deux.
Le grand voyageur est revenu du Mexique?
Ben oui. Ça s'est refroidi ici, non?
Oui, un peu aujourd'hui. Aujourd'hui puis hier, c'était des températures qui étaient un peu plus froides. Va. Mais tu vois, demain, on nous annonce un 29 là, avec le fameux facteur humidex. Là.
Ah, OK, bon. La canicule.
C'est ça. Tu vas pouvoir serrer ta petite laine demain.
OK.
Hey, Jérôme, je voulais jaser avec toi parce qu'en fin de semaine, le message était très clair là, de la part des médias québécois, que ce soit Radio-Canada, que ce soit Québécois ou tous les autres médias existants, c'était « On se ligue contre Pierre Poilievre » puis on tente de le faire passer pour Satan en personne. Qu'est-ce qui se passe au Québec pour qu'on se ligue comme ça contre un seul individu?
Je ne sais pas exactement sur le plan là, des idées, qu'est-ce qu'on reproche tant à Pierre Poilievre. Bien, évidemment, on le soupçonne, bien, c'est le discours qu'on entend, bon, d'avoir un agenda caché. Donc ça, c'est comme le spin, en fait, qui a été parti, effectivement, en fin de semaine. Tu l'as bien relevé toi-même sur X. Pourquoi au Québec plus qu'au Canada? Bien, évidemment, il y a toujours la dimension... vraiment national, là, c'est-à-dire que les conservateurs, faut le dire, fédéraux, ont toujours un petit peu plus de difficultés sur le plan de l'image, disons, à séduire les Québécois, là, pour des raisons de culture, de langue, etc. Les conservateurs ont toujours eu l'air un peu plus de tête carrée, si je peux dire. Là. Lui, Poilievre, bon, est un gars plus en forme, il a des gros bras, tout ça. Donc, ça fait quand même un changement aussi des conservateurs plus enveloppés qu'on a eu. Bon, là, je fais déjà une petite digression, là. Mais en gros, je trouve ça cheap. Je trouve que, ben, on est devant une campagne de salissage, d'abord, à tir groupé, là, contre les conservateurs. Je trouve que c'est inéquitable. De la part du Journal de Montréal, Journal de Québec, ça ne me surprend pas beaucoup. Puis on connaît, bon, les allégeances, quand même, de PKP, là, les allégeances politiques qui vont, évidemment, au Parti québécois, au provincial, puis au Bloc québécois fédéral. Mais de la part de Radio-Canada, qui est une société d'État qui est censée refléter les opinions de tous les Canadiens. Je trouve que c'est pas acceptable, en fait. C'est nettement inéquitable. Et ça explique, faut pas s'étonner, en fait, après que la confiance envers les médias soit en baisse quand on s'aperçoit que on vise, encore une fois, non pas à rapporter des faits, mais plutôt à fabriquer l'opinion.
Est-ce qu'on a le même traitement envers Justin Trudeau? Parce que j'ai beau chercher des articles concernant Justin Trudeau qui seraient à peu près la même chose là, que Pierre Poilievre, puis j'en trouve pas. Puis peut-être que je suis un peu conspirationniste dans l'âme, là. Pascal est là pour me ramener quand c'est le cas. Mais j'ai l'impression que pour les prochaines années, on est en train de préparer le prochain référendum sur la souveraineté au Québec en raison du fait que les médias québécois veulent rien savoir de Pierre Poilievre, tentent de le dépeindre comme un triste individu. Et de l'autre côté, bien, au Québec, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui a la cote. On est-tu en train de travailler tous ensemble, les médias, pour essayer de créer le prochain référendum puis que ça passe finalement?
Ben écoute, c'est un point de vue qui effectivement est en train d'être adopté, en tout cas par un certain nombre d'observateurs, là, dont toi. On peut avoir cette impression-là. Moi, je trouve ça un peu étonnant quand même qu'après la pandémie, tout d'un coup, on se soit mis à parler de souveraineté comme si c'était tout à fait naturel, alors qu'il n'y a pas eu de réflexion vraiment sur ce qui s'est passé quand même pendant 2-3 ans au Québec, qui malgré tout a été l'État le plus confiniste en Amérique du Nord. Là. Donc quand même, le Québec, c'est quand même ici qu'il y a eu les mesures sanitaires les plus sévères sur le continent nord-américain, là, ce qui n'est pas banal. Donc c'est quand même été une période assez sombre, sur mon avis. Donc et tout d'un coup, bon, bang, la souveraineté. Et là, apparemment, son genre de souveraineté dans les études de famille au Québec. Moi, j'ai pas vu ça. Pourtant, mes parents sont très politisés, mes sœurs aussi. J'ai 3 sœurs, une grande famille. Mais apparemment, tu vois, tout d'un coup, c'est le sujet de l'heure, ce serait la souveraineté. C'est là qu'on voit quand même à quel point les médias ont une capacité d'orienter quand même l'opinion publique. Et il y a un célèbre sociologue de gauche, Pierre Bourdieu, un Français, qui a écrit un livre qui s'appelle L'opinion publique n'existe pas. Donc, un livre qui montre un peu, c'est ça, les mécanismes qui sont employés par les médias pour façonner l'opinion publique, pour ne pas dire pour la faire exister, parce que c'est ça, on oriente les discussions. Donc, la souveraineté, moi, je trouve ça un peu étrange. J'y crois pas vraiment. Je trouve pas que c'est un enjeu qui est organique actuellement. Moi, personnellement, je suis souverainiste, mais je ne sens pas d'appétit vraiment autour de moi, au Québec, pour cette question-là. Je sais pas si je me trompe. Peut-être que c'est parce que, bon, j'ai pas j'ai des gens qui s'intéressent pas à ça autour de moi, mais il me semble que c'est pas, on n'est pas devant une fièvre souverainiste comme dans les années 80-90. Donc, pour moi, c'est un peu artificiel, là, cette remise à l'agenda de cet enjeu-là.
Écoute, je vais te faire entendre un extrait. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, cet extrait-là, mais c'est Magali Picard, OK, qui était en entrevue avec sur LCN. Je vais te faire entendre ce qu'elle dit sur Pierre Poilievre. Puis imagine-toi si elle disait ça d'une politicienne au Québec ou d'un politicien au Québec. Mettons, Paul Saint-Pierre Plamondon, de quelle façon ça pourrait être perçu?
On me dit que vous craignez beaucoup Pierre Poilievre.
Ah, écoutez, je suis terrorisée.
Pourquoi? Allez-vous vous impliquer pendant la campagne?
Ah, certainement. Et vous savez,
pour FTQ, un parti ou?
Non, on fait plus ça. Puis ça, c'est quelque chose qui est fondamental, okay, à la FTQ.
Mais
on ne soutient plus de parti.
Mais contre?
Mais pas contre. Moi, je vous dis, je pense que c'est dangereux de voter pour Pierre Poilievre.
Magali Picard, présidente de la FTQ, merci d'avoir été avec nous.
Ben, merci de l'invitation.
C'est la présidente de la FTQ, là.
Oui, c'est délirant.
Écoute, c'est dangereux de voter pour Pierre Poilievre.
Pourquoi est-ce qu'on se serait rendu là dans les médias ou encore dans les commentaires pour une présidente de la FTQ, selon vous? Parce que pour que ça en vienne là, il y a quelque chose qui a été allumé?
Oui, oui. Mais effectivement, c'est-à-dire que les médias, disons, donnent le ton. Là. Donc, on encourage, en fait, l'émission de ce genre de commentaires. C'est-à-dire qu'on crée une atmosphère favorable ou du moins défavorable aux conservateurs, qui, on a le droit évidemment de ne pas être conservateur, mais de là à la diaboliser à ce point-là.
Mais qu'est-ce qui a allumé chez Pierre Poilievre? Chose qu'on a moins vue dans le passé. Harper a été critiqué du côté conservateur par ceux qui n'étaient pas nécessairement conservateurs, mais à ce point, qu'est-ce qui peut avoir été différent dans son parcours, dans ses propos, dans ses idées, pour en venir à une ouverture comme ça de parole dans les médias?
Ben, très bonne question, parce qu'on les cherche quand même. Là. Il y a évidemment la fois où Poilievre aurait traité je parle Justin Trudeau de fou là, ou de quelque chose de pas insane, là, mais en anglais. Donc, bon, on reproche à Poilievre d'avoir un style, bon, pitbull, c'est un qualificatif qu'on sort régulièrement.
Ce serait juste ça, parce qu'on en a vu d'autres, des politiciens, là, avoir ce style-là.
Ben, il me semble qu'être combatif pour un politicien me semble être une qualité, honnêtement, là, à gauche comme à droite, au centre, comme en haut puis en bas, là. Ça me surprend un peu. Mais vous voyez, on vise vraiment à semer le doute. Dans le fond, on ne sait pas exactement ce qu'on reproche à Pierre Poilievre, parce qu'il l'a dit, d'abord, l'avortement, il ne va pas rouvrir le dossier, là, comme tous ses prédécesseurs. Donc, ça me semble que ça commence à être assez clair. Donc, on sème le doute. Là. C'est-à-dire, on parle d'intention cachée, agenda caché. On est quasiment dans une sorte de complotisme, finalement, politiquement correct. Là. C'est-à-dire, donc, le Pierre Poilievre, c'est un personnage mystérieux. Donc, le dossier du Journal de Montréal, Journal de Québec, en fin de semaine, c'était le mystère Pierre Poilievre. Donc, c'est quelqu'un qui est opaque, c'est quelqu'un qui manque de transparence, une sorte de bonhomme 7 heures, finalement, de la politique fédérale. Donc, on est vraiment devant un discours, plus que devant des reproches fondés journalistiquement. Et finalement, et aussi cette fameuse trumpisation de Poilievre. Cette espèce de le spectre de l'américanisation de la vie politique canadienne. C'est toujours ça aussi.
Pourquoi il ne veut pas se détacher de ça? Pourquoi il ne prend pas action, acte, parole dans ce genre de courant-là?
Ben, il n'y a pas lieu, il est premier au Canada. Prochain premier ministre du Canada.
Mais il y a des gens quand même qui se sont braqués. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas travailler là? Il pense que c'est peine perdue?
Mais c'est juste au Québec, ça ne marche pas, Pierre Poilievre. Ailleurs, mais, il va passer ça, tempête.
Mais tu comprends ce que je pose comme question? Est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas donner d'attention à ça, vous croyez?
Pourquoi il ne répond pas à ces accusations-là, finalement, Poilievre?
Oui. Oui, puis il ne sort pas de Trump et tout.
Ben, je pense que Marceau vient de répondre un peu. C'est-à-dire, sa recette est gagnante, donc peut-être qu'il se dit, comme j'ai encore une avance considérable, peut-être vaut mieux me la fermer, là. Peut-être que c'est ça.
Peur de faire des erreurs, OK.
Peut-être. Écoute, je lance l'hypothèse, la question est bonne. Mais juste une différence quand même fondamentale entre Trump et Poilievre, puis peut-être qu'il y a certaines similitudes, là, je sais pas, économiques, mais encore là, je pense pas, parce que Trump était plutôt protectionniste. Poilievre n'est pas un protectionniste comme tel sur le plan économique, mais une différence fondamentale. La femme de Pierre Poilievre, Anaïda Poilievre, est vénézuélienne.
Oui.
Donc, Poilievre n'a absolument pas, mais absolument pas la même posture que Trump sur la question migratoire. C'est parce que, d'abord, sa femme est latino-américaine, donc il ne pourrait pas avoir la même hostilité envers les latino-américains qui, on le sait, montent aux États-Unis depuis l'Amérique centrale. Donc, parce que c'est ça la question actuellement aux États-Unis, c'est la crise migratoire, la crise frontalière, etc. Et c'est vrai, et moi qui suis évidemment très mexicanisé, etc., je trouve que Donald Trump l'a échappé très souvent sur la question migratoire avec des commentaires qui sont, tant qu'à moi, racistes. C'est arrivé, je pense, que Donald Trump a fait des déclarations racistes envers les Mexicains, puis ça ne veut pas dire que tout le programme de Trump est mauvais, mais je pense que c'est arrivé. Mais Poilievre, lui, n'est pas du tout là-dedans. Il n'est pas du tout dans... Parce que d'abord, les enjeux ne sont pas les mêmes. Le Canada n'a pas une frontière avec le Mexique. Mais juste cette différence-là m'apparaît très fondamentale et les médias n'en font jamais état. Donc, alors que s'il y a un truc qui fait de Trump quelqu'un de droite et voire d'ultra-droite, entre guillemets, c'est bien la question migratoire. Donc, je trouve que les comparaisons sont maladroites et sont malhonnêtes.
Mais ça se peut-tu que les gens soient juste mal informés par des activistes puis des militants qui ont d'autres missions que de bien informer la population? T'sais? Parce que je regarde la politique de Trump là, concernant l'immigration, puis je regarde François Legault avec la CAQ concernant l'immigration, puis François Legault puis le Parti québécois ressemblent pas mal plus... Donc, la CAQ puis le Parti québécois ressemblent pas mal plus aux idées de Donald Trump que de Kamala Harris. Mais si tu dis aux Québécois pour qui vous allez voter, pour qui vous voteriez aux États-Unis, est-ce que ce serait Harris ou Trump? Bien, la majorité des Québécois disent, nous, ce serait Harris, alors qu'actuellement, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui aurait à peu près les mêmes politiques que Donald Trump aux États-Unis. Je veux dire, le monde est mêlé.
C'est incohérent, on ne relie pas les points. Effectivement, écoute... le PQ est un parti nationaliste. Donald Trump est un président nationaliste qui défend la souveraineté de son pays contre ce qui est effectivement perçu comme une sorte d'invasion migratoire. C'est vrai, écoutez, il y a 60 millions de personnes qui parlent espagnol aux États-Unis. Je ne sais pas si vous imaginez, il y a plus de monde qui parle espagnol aux États-Unis qu'en Espagne. Donc, c'est sûr qu'il y a une insécurité culturelle qui est très forte là-bas. On peut le comprendre. Moi, je pense que le mur, là, je fais une autre digression, je pense que le mur ne va jamais freiner l'immigration illégale aux États-Unis. Je pense que tous les murs dans l'histoire ont échoué, sur le mur de Berlin ou autre. Là. Je pense qu'il n'y a pas... de toute façon, c'est hypocrite parce que vous savez, ça marche des deux bords. Là, dans le nord du Mexique, il y a des Américains qui vont magasiner au Mexique pour payer moins cher et ils font monter les prix pour les résidents locaux. Donc, il n'y a pas juste des Mexicains qui vont aux États-Unis. Il y a aussi beaucoup, beaucoup d'Américains qui vont au Mexique. Et ça commence à déplaire à beaucoup de gens parce que c'est ça. Les Américains font monter des prix globalement. Durant la pandémie, on a eu des dizaines de milliers de télétravailleurs qui sont venus faire du télétravail à Mexico. Donc, il y a des quartiers qui se sont américanisés à vitesse grand V. Et donc, cette question-là, tant qu'à moi, on ne peut pas fermer hermétiquement deux pays entre... c'est trop complexe. On aura sûrement l'occasion de se reparler de la crise migratoire.
On a des textos qui entrent, puis des gens qui sont plutôt conservateurs dans leur politique fédérale, qui disent qu'ils sont même membres, entre autres, quelqu'un qui nous écrit « Je suis membre depuis Harper du Parti conservateur du Canada. On a travaillé, réalisé des beaux projets de loi avec ce gouvernement-là. » Il dit « Grande déception de cette défaite en 2015. » Il dit « Par contre, peut-être que pour Poilievre, il y a aussi le genre d'alignement face à son support aux camionneurs du côté d'Ottawa qui a pu jouer, du moins pour cet auditeur-là, c'en est un. » Fait que, il y a peut-être cette prise de position-là qui peut avoir joué chez certaines personnes. Mais les textos sont intéressants. 88-971-1021, si vous voulez participer à la conversation, on aimerait ça savoir qu'est-ce que vous appréciez ou qu'est-ce qui vous rebute peut-être de Pierre Poilievre au fédéral?
Mais c'est clair, c'est sûr qu'on reproche à Pierre Poilievre d'avoir courtisé ceux qu'on a appelés les complotistes. Ça, c'est très clair. C'est un reproche qui lui est adressé régulièrement. Mais encore là, encore faut-il s'entendre sur qui sont les complotistes. C'est-à-dire, il y en a qui sont des vrais complotistes, là, mais il y en a qui n'ont jamais été. Moi, j'en suis pas un. Je suis un intellectuel qui, oui, a critiqué la gestion de la pandémie. Mais ça n'a aucun rapport avec un complot là, franc-maçon ou judéo-maçonnique, là, comme on entend par exemple dans le conflit israélien où là on accuse les Juifs de contrôler, de tirer les ficelles de l'humanité. C'est des trucs, d'ailleurs, c'est des théories que j'avais même étudiées à l'université auxquelles je n'avais jamais adhéré. Mais c'est sûr, on reproche à Pierre Poilievre d'avoir courtisé ceux, c'est ça, les complotistes, mais critiquer les grands médias. Est-ce que c'est être complotiste? Ça dépend aussi de la définition qu'on donne aux complotistes. Mais c'est comme si on accusait Poilievre d'aller chercher un vote populiste, évidemment populiste, mais encore là aussi, il y a des populistes de gauche aussi, ça existe, hein, les populistes de gauche. Donc tous les populistes ne sont pas non plus malsains, là, c'est-à-dire qu'en général, être sensible aux réalités populaires, ça peut être une qualité aussi en politique, tant qu'à moi. C'est être déconnecté des réalités populaires. Est-ce que c'est mieux qu'être populiste? Moi, je pense que non. Là.
Mais je pense que c'est dans la prise de position face à ce populisme-là qui est important d'avoir une analyse ensuite. Est-ce que c'est quelque chose que le politicien va prendre et jouer au détriment de sa population, ses électeurs? Est-ce qu'il va sous-estimer l'intelligence de ces gens-là? Est-ce qu'il va en abuser? Est-ce que c'est dans la réponse, de s'intéresser aux enjeux quotidiens des gens? Ça, je suis totalement d'accord, mais je pense que c'est plus dans la réponse à l'intelligence.
Oui, puis c'est sûr que, bon, on peut aussi instrumentaliser un électorat, se servir d'un groupe ou de canaliser une frustration populaire. Effectivement, ça peut être sain et moins sain, là, ou malsain. Mais globalement, puis tous les politiciens sont critiquables, là, c'est ça, c'est ça, vivre en démocratie. Mais je trouve que globalement, le tir groupé dans les médias contre le Parti conservateur de Poilievre, je trouve qu'il est nettement exagéré. Alors que je reviens quand même juste à sa femme, Maïda Poilievre, qui commence régulièrement les assemblées où Poilievre se pointe. Je veux dire, est-ce que Anaïda Poilievre est une femme d'extrême droite? Vous comprenez, c'est délirant de tenir ce genre de discours-là. C'est même rendu que le Parti conservateur est même rendu trilingue. C'est-à-dire, sa femme commence ses speeches en espagnol, et là, on va dire qu'il y a des racistes là-dedans au travers de tout ça. Ben là, écoutez, des racistes qui parlent espagnol dans des rassemblements conservateurs, on n'a pas vu ça souvent. Là. Je sais pas.
Ben, souviens-toi, on avait fait ça avec Éric Duhaime. Quand Éric Duhaime avait annoncé son arrivée en politique comme chef du Parti conservateur, on lui avait dit que c'était le chef des homophobes.
Ben c'est ça. Donc, c'est ça. Mais maner, il faut. Hein.
En même temps, Jérôme, là, comment tu peux être boss de la FTQ, dire, nous, ce qu'on reproche avec Pierre Poilievre, c'est la façon dont il dit les choses. Il est trop direct, il est un peu cow-boy. Puis après ça, le traiter de clown, puis de toutes sortes de noms pendant une entrevue sur les ondes d'LCN. Je veux dire, ça se tient pas debout, ce genre de discours-là. T'sais, si tu dis...
Il faut donner l'exemple.
Puis, je vais juste le faire réentendre parce que moi, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu quelque chose de même de la part d'un boss de la, FTQ.
On me dit que vous regardez... vous craignez beaucoup Pierre Poilievre.
Ah, écoutez, je suis terrorisée.
Pourquoi? Allez-vous vous impliquer pendant la campagne?
Ah, certainement. Certainement. Et vous savez...
Pour un parti ou...
Non, on fait plus ça. Puis ça, c'est quelque chose qui est fondamental à la FTQ.
Mais
on ne soutient plus de parti.
Mais contre?
Mais pas contre. Moi, je vous dis, je pense que c'est dangereux de voter pour Pierre Poilievre.
Magali Picard, président de la FTQ, merci d'avoir été avec nous.
C'est dangereux. C'est dangereux, Pierre Poilievre.
Dangereux. Donc, l'argument du danger, hein, ça, c'est très fort actuellement. C'est-à-dire le danger versus la sécurité. Hein, ça, c'est structurant actuellement dans le discours public. C'est-à-dire, le Parti libéral, ce serait un parti sécuritaire. Le Parti conservateur serait un parti dangereux. Hein, donc, les gens qui sont à droite sont dangereux, les gens qui sont à gauche seraient sécuritaires. Donc, c'est toujours un peu le safe space, finalement. Donc, Poilievre, c'est l'anti-safe space. Trudeau, lui, c'est le safe space. Donc, il nous sort de notre zone de confort. Donc, ça, c'est très fort. Hein. C'est depuis la pandémie aussi. Donc, les gens qui critiquent le gouvernement nous mettent en danger parce qu'ils vont propager le virus du conservatisme ou du... Ça, c'est toujours fort. Le danger, là. Vous êtes un danger pour l'environnement parce que vous conduisez votre auto. Vous êtes un danger pour les communautés culturelles parce que vous avez un discours xénophobe. Ça, c'est fort.
Jérôme Blanchet-Gravel, c'est toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine.
Un plaisir. Merci beaucoup.
Jérôme Blanchet-Gravel de Libre Média. 1h22, qu'est-ce que vous avez à dire? 418-971-1021, 418-971-1021. On veut vous entendre. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, vous êtes nos yeux et nos oreilles. Continuez de nous écrire par texto. OK, on s'en va en musique. The Offspring sur les ondes de Boulevard à l'instant. Ah!